Tribu, Catherine Erard.
Nous serions de plus en plus nombreux à ne plus trop bien savoir pourquoi nous nous levons encore le matin pour aller travailler. Employés fatigués par des objectifs impossibles à atteindre, vendeurs de choses inutiles, cadres chargés de mettre tout le monde sous pression, le sens de notre travail nous échappe. Nous serions aussi de plus en plus nombreux à vouloir que le temps passé à gagner nos vies serve également à construire un monde plus durable, plus juste, nous permette de nouer des relations constructives, nous ouvre l'esprit, bref, qu'il nous épanouisse. La génération des 20-35 ans serait tout particulièrement en demande d'un travail porteur de sens. Eux, ce sont les enfants de la globalisation, de la diversité culturelle, des réseaux sociaux et du développement durable. Du côté des entreprises qui cherchent à les recruter, on s'interroge aussi. De nouveaux modes de management apparaissent. L'important ne serait plus tant d'expliquer à l'employé comment faire son travail puis de le surveiller, mais de lui dire pourquoi il le fait et de lui faire confiance. Le sens du travail ou à quoi bon continuer à faire des heures sup. Annie Wallon, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes secrétaire générale de l'Association Suisse des psychologues du travail et des organisations. Alors j'espère que pour vous, le lever s'est bien passé ce matin dans l'idée de venir en direct dans Tribu.
Oui, très bien, je vous remercie.
Annie Wallon, d'où provient ce sentiment d'absurdité face au travail ?
Alors, vous l'avez dit dans votre introduction, effectivement, il y a toute une société, et finalement le monde du travail fait partie de cette société qui a évolué grandement dans ces 30 dernières années, avec une déconnexion de plus en plus grande entre finalement les objectifs fixés et le résultat, le service ou le produit fabriqué. Et les travailleurs et travailleuses d'aujourd'hui, voilà, n'ont plus beaucoup de connexions, ont, comme vous l'avez dit, des objectifs souvent irréalistes ou irréalisables, des ressources en baisse. Et tout ça, bien sûr, nourrit ce sentiment d'inutilité ou d'absurdité.
Vous disiez aussi l'idée d'avoir un travail segmenté, c'est-à-dire avant on faisait une tâche un peu de A à Z, on voyait ce qu'on faisait. Aujourd'hui, cette segmentation du travail, ça pose problème.
La segmentation, effectivement, et la diversité des tâches, à l'époque de l'artisanat, finalement, ou en tout cas des métiers manuels, à la fin de presque chaque journée, vous pouviez effectivement voir le fruit de votre travail. Et puis, effectivement, cette déconnexion d'avec, finalement, le produit final fait que, on a un petit peu perdu le sens de notre contribution, finalement. À quoi ça sert ? Comment est-ce que ce que je fais s'insère dans le tout ?
Parfois, il y a aussi une inadéquation entre ce qu'on nous demande et puis nos valeurs.
Oui, tout à fait. Alors, il peut y avoir effectivement des questions éthiques là autour, qui sont aussi en lien avec différentes contraintes ou pressions qui sont appliquées dans le monde du travail. Je pense par exemple aussi dans le cas d'un recrutement récent à ce peintre qui souhaitait changer d'orientation professionnelle parce qu'il a appris à faire son métier bien, et il aime son métier. Par exemple, voilà, que dans un appartement, on met 3 couches de peinture. Et puis, au final, son employeur actuel lui dit, mets-en 2, ça suffira. Ça réduit les coûts, et puis, nous, ça, on peut se le mettre dans la poche. Donc là, éthiquement, cette personne ne pouvait plus fonctionner comme ça, et du coup, souhaitait changer d'orientation.
On est plus fier de son travail.
Voilà, il y a une perte de fierté, il y a une perte de la notion de métier aussi, qui était avant vraiment au cœur de l'activité. Et à cause aussi de la polyvalence qui est exigée actuellement, à cause aussi de compétences annexes que l'on doit acquérir, comme les compétences informatiques ou les compétences en rédaction ou administrative. Finalement, il y a de moins en moins de temps peut-être aussi pour le cœur de métier. Et voilà. Une frustration, probablement.
L'impression aussi, des fois, qu'on sacrifie beaucoup de choses pour son travail, pour son entreprise, alors qu'on sait que s'il y a un problème, eh bien, on va peut-être faire partie du lot de ceux qui seront licenciés. Il y a aussi peut-être ce rapport à l'entreprise qui a changé.
Oui, tout à fait. En tout cas, ce sentiment de déséquilibre entre l'effort fourni et la récompense est extrêmement important au jour d'aujourd'hui. On voit par exemple qu'effectivement les modes de gestion par objectif, par exemple, où finalement on tend à ne récompenser que le résultat final, ont permis d'oublier toutes les autres formes de reconnaissance, comme la reconnaissance justement de l'expertise ou la reconnaissance de l'effort sans résultat. D'autant plus quand ce résultat n'est pas complètement dans nos mains, dont on n'a pas le contrôle, ou pour lesquels il a manqué de ressources, indépendamment de notre volonté de bien faire.
Annie Wallon, ça peut créer une souffrance, le mot est peut-être un petit peu fort, mais quand même, quand chaque jour on doit se lever pour aller au travail et finalement on voit plus le sens de ce qu'on fait.
Oui. Alors c'est vrai que le terme de souffrance, c'est un terme peut-être, enfin, qui est beaucoup utilisé par la psychodynamique du travail française en particulier, mais ça crée un malaise effectivement quand vous savez bien qu'au bout de chaque journée, vous n'arriverez pas finalement à terminer la pile de ce qu'il y a à faire, parce que peut-être aussi vous remplacez un collègue, ou quand vous ne pouvez pas finalement apporter la qualité ou le soin aux tâches que vous avez effectuées, ça crée une grande frustration ou peut-être une résignation au final, plus qu'une souffrance, avec des malaises qui peuvent aussi prendre différentes formes.
Est-ce que certaines professions seraient plus touchées que d'autres ? On évoquait le monde de l'artisanat où le soir, ben voilà, le maçon, il a construit son mur, il sait ce qu'il a fait. Je pensais aussi aux métiers qui sont peut-être plus en relation avec les personnes, l'instit, le médecin. Là aussi, le soir, quand on rentre chez soi, on voit qu'on a fait quelque chose de concret. Ça, c'est des professions qui seraient moins touchées que d'autres. Il y a des professions qui sont plus exposées à cette absence de sens.
Alors effectivement, je pense que si on s'en tient à la question du sens, lorsque l'on a un métier déjà qu'on a choisi, et en plus dans lequel effectivement au fil d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois on peut constater l'apport, la contribution qu'on y a apporté, ça soigne certainement cet aspect-là. Après, évidemment que l'investissement dans des métiers vocation, vous parliez de soins aussi ou dans l'enseignement, ben ensuite sont à risque peut-être pour d'autres facteurs dans le monde du travail d'aujourd'hui.
Parfois, on évoque aussi un problème de surqualification, c'est-à-dire l'employé qui a fait des études et qui se retrouve finalement à faire un travail de secrétariat, qui s'ennuie au travail.
C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais on peut être en malaise professionnel tout autant parce que l'on est surexploité finalement, où il y a un surmenage qualitatif, que l'inverse. Donc, de ne pas finalement nous utiliser dans un certain sens ou exploiter nos compétences à leur juste valeur peut créer aussi finalement une sorte de résignation intérieure ou de malaise au travail.
C'est propre à notre génération, le fait de se plaindre d'un travail qui n'a pas de sens. Est-ce que autrefois, le fait de travailler pour gagner sa vie, ben même si c'était répétitif, barbant, ça suffisait à donner un sens?
Moi, je crois qu'il faut voir que le travail a beaucoup évolué aussi dans la société qui a elle-même évolué. Donc, on avait probablement, après-guerre, on va dire, le sens du travail était beaucoup plus collectif. Il y avait une intention, finalement, de construire quelque chose ensemble, de contribuer ensemble, de produire ensemble. Et puis, effectivement, il y a eu un déplacement de valeurs, mais aussi, de manière générale, dans notre société, vers beaucoup plus d'individualisme, où peut-être qu'on a investi la valeur travail de manière peut-être trop individuelle, avec des attentes aussi. On parle de bonheur au travail. Est-ce que vraiment le travail est le lieu du bonheur? Est-ce qu'on n'a pas surinvesti ça aussi?
Il y a peut-être aussi là derrière, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais quand même une crise de l'idéal du capitalisme. On évoquait autrefois les autres générations qu'on se donnait pour son travail, qu'on essayait de gagner plus. Il y avait l'idée qu'on allait développer notre société, permettre de sortir de la pauvreté, généraliser l'enseignement. Enfin, il y avait cet idéal du progrès auquel on participait. C'est encore finalement présent dans beaucoup de pays du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où le fait de s'investir, de gagner de l'argent, ça va plutôt être perçu comme une forme de « allez, on va polluer davantage, on va entretenir une machine qui, pour bien fonctionner, doit licencier des employés ». Enfin, vous voyez, cette image beaucoup plus négative qui est liée aux performances au travail.
Bon, ce qui est sûr, c'est que le travail de l'homme, il est quand même devenu finalement une menace pour lui-même, dans un certain sens, et pour son environnement. Ce qui a changé aussi, c'est que ben voilà, cette fameuse génération dont vous parliez, des 20-35 ans, est probablement la première qui ne verra pas nécessairement son avenir s'améliorer en termes de progrès, alors que ça a été le cas des deux ou trois générations qui ont précédé.
Dans quel sens elle va pas avoir de progrès ?
Mais c'est-à-dire que voilà, nos parents ou grands-parents pouvaient, grâce à leur, aux fruits de leur travail et à divers avantages financiers qui se sont finalement qui ont été octroyés, bah, voir leur quotidien s'améliorer, voir leur bien-être, leur
On
qualité de
vacances.
Vie, voilà, s'améliorer. Aujourd'hui, les professionnels de ces 20 à 35 ans n'ont plus forcément les mêmes perspectives pour l'avenir et pour leurs enfants. On parle d'AVS aussi, on ne sait pas comment on va régler ces questions-là. Donc, même en travaillant de manière extrêmement engagée, on ne sait pas si on arrivera réellement à améliorer encore sa qualité de vie. Et puis, il y a le statut de l'argent qui a changé aussi un petit peu. Vous parliez de capitalisme. Certainement qu'avant, l'argent était un moyen de faire des choses. Aujourd'hui, on va dire qu'on entend beaucoup que l'argent est plutôt une fin en soi et que dans le travail, on nourrit beaucoup plus peut-être des actionnaires que... voilà.
La figure du trader, ça fait pas vraiment rêver quand on voit des films. C'est souvent l'homme qui est beau, qui a une belle voiture, un bel appartement, mais qui passe à côté de l'essentiel.
Oui, alors ça c'est vrai que c'est aussi un débat assez central finalement. Est-ce que le travail est au service de mon projet de vie ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que je lui donne la place adéquate ou est-ce que j'ai d'autres centres d'intérêt dans lesquels je peux aussi me réaliser? Donc toute cette question de la réalisation de soi, est-ce que ça doit vraiment passer que par le travail ?
Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes, Annie Valeul, pour justement évoquer cette nouvelle génération qui serait, paraît-il, plus morale.
Tu auras, j'espère, un boulot à plein temps, de la classe, du flair, la garde des enfants. Des vacances à la mer, des aides au logement. Et moi, ta pauvre mère, je dis ça simplement pour donner mon avis. La chance de ta vie. La chance de ta vie. Tu auras sans doute des amis haut placés, les matchs de foot, des anciens du lycée, le sens des affaires. Des tuyaux, des soldes, de bonne manière. Une carte gold, ce n'est que mon avis. La chance de ta vie. La chance de ta vie. Tu auras, c'est sûr, des comptes à rendre. Que ça nous rassure. Tu n'as pas l'air tendre. Tu as tout compris. Enfin, du moins je crois. Chasseur ou la proie, l'argent n'a pas de prix. La chance de ta vie. La chance de ta vie. Tu auras, qui sait, des instants magiques. Une plage privée, une vie publique. Une actrice célèbre qui chantera des chansons. Pour gagner, il faut perdre la gloire et la rançon. L'avoir dit. La chance de ta vie. La chance de ta vie. Tu auras peut-être affaire à la justice. Des débris de fenêtres dans un libre service. Tout est si mal foutu. Alors je te préviens, des combats sans issue. Sur le flanc des ravins, il vaut mieux faire envie. La chance de ta vie. La chance de ta vie. Tout ce que tu veux, mais j'en tremble. Qu'un jour ou l'autre, on se ressemble. Tout ce que tu veux, mais j'en tremble. La chance de ma vie.
La chance de ta vie, c'était Florent Marchais. Annie Vallon, est-ce que cette nouvelle génération, finalement, ne nous ressemble plus? Cette génération Y dont on parle tant, est-ce qu'elle serait plus morale? Est-ce qu'elle serait moins sensible à la peine du gars?
Alors, plus morale, je ne sais pas si je peux m'exprimer là-dessus, mais en tout cas, probablement que la place qu'elle accorde au travail a évolué. En tout cas, ce n'est plus le seul lieu d'investissement, ou en tout cas le pilier central de son identité dans la société. Donc dans ce sens-là, oui, je pense qu'elle a évolué, effectivement.
Je voyais une étude qui a été faite auprès de futurs ingénieurs et puis aussi d'étudiants en école de commerce, donc là aussi un milieu assez particulier, mais ce qui ressortait, c'est que pour eux, l'important dans le travail, c'est qu'il ait un sens, que l'ambiance soit chaleureuse, qu'on puisse mener des projets intéressants, quitte à avoir une rémunération moins importante.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a une importance renouvelée pour la question du sens et puis aussi pour la question de l'équilibre entre la partie du travail et la vie privée. Donc dans ce sens-là, c'est aussi une génération qui recherche beaucoup cet équilibre vie professionnelle, vie privée.
Et en même temps, on est à une période où justement les deux sont en train de se mêler toujours plus avec le télétravail, etc.
Mmh. C'est sûr que l'une des évolutions de ces 20 à 30 dernières années, c'est les nouvelles technologies finalement de l'information et de la communication qui ont permis de rester connectés en dehors du travail. Et effectivement, c'est assez rarement thématisé, ou en tout cas explicitement dans les entreprises, qu'est-ce qui est attendu du collaborateur en termes de disponibilité, de flexibilité, de réponse à des mails ou à des téléphones hors des heures de travail. Et ça, effectivement, ça a beaucoup changé.
Quelles sont les tactiques, entre guillemets, qu'utilisent les entreprises pour justement séduire cette nouvelle génération?
Alors justement, je pense qu'il y a une pléthore de bénéfices qui sont présentés lors des recrutements de type cafétéria avec menu multiple, y compris végétarien, de type fitness, de type autre activité de wellness.
Toboggan, même... je lisais même. Toboggan, semble-t-il, chez Google.
Exactement. Donc, bon, ça c'est vrai que c'est l'apanage quand même en général des relativement grandes structures, hein, mais on essaye de séduire par des avantages ou des activités extra-professionnelles, avec quand même un objectif qui n'est pas innocent derrière. Hein. Plus l'employé reste au travail et peut faire un certain nombre de tâches extra-professionnelles sur place, plus il s'engage.
Je disais l'expression par rapport à cela d'endoctrinement ludique.
Oui, on peut voir ça aussi dans le domaine du wellness au travail. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont une liste assez intéressante d'activités possibles, qui vont des massages assis à diverses choses, y compris de la location de DVD ou voilà. Mais je crois que c'est jamais innocent là derrière et il y a toujours une attente d'engagement et de présence.
Qui fait qu'on va plus compter ses heures, qu'on va même pouvoir dormir au travail dans certains cas. Annie Vallon, est-ce que ça touche uniquement cette évolution-là, les gens qui ont fait des études, ou est-ce que ces questions d'absence de sens de travail, de trouver un sens à son travail, ça touche aussi des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de qualifications?
Oui, je pense que ça touche effectivement les deux, si on en vient au sens. J'ai eu l'occasion ce printemps de travailler dans des ateliers avec plusieurs dames de production qui fabriquent sur une chaîne de montage de petits éléments microtechniques extrêmement précis. Et donc ce sont des dames qui ont beaucoup d'expérience et d'expertise sur leurs activités, mais qui n'ont pas nécessairement une formation académique ou professionnelle poussée. Et même elles ressentent de moins en moins d'autonomie, finalement, dans ce qu'elles font. Par exemple, avant, elles avaient encore l'autorisation de charger, recharger leur ligne de production seule. Maintenant, elles n'ont plus le droit de faire ça. Il faut qu'elles demandent l'autorisation à leur chef ou que ce soit leur propre responsable qui vienne renouer la ligne. L'entreprise a démarré avec un nouveau système de management, enfin qui n'est plus si nouveau, mais le lean management qui essaye d'être dans une dynamique d'amélioration continue. Et au lieu de demander à ces dames qu'est-ce que l'on pourrait faire finalement pour faciliter leur travail, pour le leur rendre un peu plus, agréable, si on peut dire, elles ne sont pas consultées. Ce sont les ingénieurs qui viennent voir comment elles font et puis qui décident des améliorations à apporter. Ça va jusque même dans leur toilette où elles ont une liste de termes japonais dont elles doivent se souvenir pour pouvoir finalement parler le langage de ce nouveau modèle d'organisation du travail.
finalement, Charlie Chaplin, les temps modernes, c'est pas si loin, quoi.
Et oui, dans certains domaines, c'est encore assez présent, ouais.
Quelles sont les conséquences pour une entreprise quand on a son personnel qui est de plus en plus démotivé?
Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'absentéisme à l'heure actuelle, hein, et puis des questions d'enjeux autour de la santé au travail, mais on risque justement une démotivation, une résignation, et puis du coup de générer une forme de présentéisme qui est encore...
C'est quoi le présentéisme ?
Le présentéisme, ben, c'est soit justement être tellement démotivé et résigné par son travail que notre enveloppe corporelle est là finalement, mais on n'est pas en mesure d'apporter une performance quelconque, ou alors c'est dans des contextes de travail où il y a de la pression, de la crainte, et même si je suis malade, même si je ne suis pas bien, je vais quand même me rendre à mon travail pour pouvoir assurer et du coup ne pas risquer de perdre ma place.
Annie Wallon, cette demande de sens, on voit bien qu'elle a des conséquences pour les entreprises. Il y a l'envie aussi de recruter la nouvelle génération qui arrive. Il y a l'envie aussi d'avoir des employés motivés. Est-ce que ça induit des changements dans la manière d'organiser l'entreprise, dans la manière de concevoir le management?
Alors, je pense que ça induit beaucoup de questions sur comment est-ce qu'il faudrait faire autrement. Il y a déjà pas mal quand même d'entreprises qui se les posent. En termes de changement, alors il y a des changements au niveau, on va dire, des symptômes, hein, avec des actions des fois thématiques, ponctuelles, pour gérer le stress par exemple, ou justement pour gérer l'absentéisme. De changements de modèle d'organisation du travail ou de style de management qui serait plus participatif, ben là il y a encore certainement un peu de travail à faire.
Il y a ces expériences également d'entreprises libres. Qu'est-ce que c'est ça?
Alors, ces entreprises libérées, ce sont des entreprises qui n'ont plus réellement de structure hiérarchique, donc ce sont des entreprises plates en général, dans lesquelles effectivement ben, les collaborateurs se répartissent les tâches au-delà de leur expertise ou profession de support. Par exemple, la fonction ressources humaines est diluée, on va dire, en fonction des connaissances ou des compétences de chacun, par exemple.
Moi, j'avais vu un reportage où les fonctions changeaient, où pendant 6 mois, c'était un qui était responsable du personnel et puis après, c'était un autre. Ça marche ?
Ben, encore une fois, je pense qu'on ne pourra jamais trouver un modèle d'organisation du travail unique. Probablement que c'est un modèle très intéressant pour une structure de taille, on va dire, modeste, qui doit être très réactive, dans lesquelles les compétences sont élevées. Probablement que c'est un modèle intéressant.
Mais en même temps, tout dépend le domaine dans lequel on est actif. Je ne sais pas si on ne peut pas organiser un poste de police comme ça. Enfin, il y a toutes ces questions-là aussi.
Voilà, exactement. La branche d'activité, la taille de l'entreprise, le degré de formalisation, hein, si ça doit être très procéduré, le degré de qualification. Tout ça va faire qu'on ne va pas pouvoir appliquer effectivement un modèle unique dans le monde du travail.
Annie Wallon, si on prend un petit peu de recul par rapport à ces questions de sens de travail, est-ce que il n'y a pas quand même une illusion à attendre du travail qui nous rend heureux, qui nous rend épanouis? Est-ce que là, on n'est pas aussi un peu manipulé? Comme la consommation était censée nous rendre heureux, maintenant c'est le travail.
Oui, alors effectivement, ça revient un petit peu au début de notre discussion sur le fait que on a investi dans le travail peut-être quelque chose d'un peu trop important en termes d'attente. Et même si l'homme a un certain besoin de se réaliser, évidemment que s'il peut, on va dire, répartir ce besoin dans différents centres d'intérêt, l'équilibre sera certainement bien plus possible que de l'investir uniquement au travail.
On a une nouvelle génération qui va opter davantage pour le temps partiel.
Probablement que justement parce qu'elle a compris, ou qu'en tout cas elle souhaite ne pas investir complètement le monde du travail comme seul lieu de réalisation, elle se permettra de considérer ça comme une des tâches dans lesquelles elle s'investit, et peut-être d'avoir un temps partiel qui lui permet d'avoir une autre activité, rémunérée ou pas d'ailleurs, et d'autres centres d'intérêt.
Cette génération, on projette beaucoup de choses sur elle, comme si finalement elle allait révolutionner un peu notre manière de travailler. Et puis en même temps, quand on lit la manière dont elle est écrite, je me disais, c'est pas tellement différent que dans les années 60, ceux qui rêvaient d'aller élever des chèvres dans le Larzac.
Moi, je crois que chaque génération, finalement, traduit les évolutions de société qui ont eu cours, finalement. Et puis aujourd'hui, effectivement, bah, on revient peut-être une recherche de sens, d'essentiel, comme vous le décriviez. Et il y a pas mal de gens, hein, y compris à 50 ans, qui commencent à se questionner, qui quittent leur emploi extrêmement bien rémunéré, leur poste à responsabilité, pour revenir à des choses manuelles, par exemple.
Le cadre qui plaque tout pour ouvrir son entreprise d'herboristerie. C'est vrai qu'on est sans arrêt confronté à des récits comme ça dans les médias. Ça fait un peu rêver en même temps.
Oui, puis c'est pas mal, non? Vous pensez pas?
Merci. En tout cas, Annie Vallon, il faut quand même rappeler que cette génération dont on parle, cette génération Y, je lisais ce chiffre, elle représentera 35% des travailleurs en 2020. On parle aussi beaucoup d'une évolution globale du travail avec les nouvelles technologies. On va, selon vous, quel est votre sentiment? Parce qu'on peut pas savoir, mais on va vraiment vers des changements majeurs ou globalement, ça va rester un peu pareil?
Dans un monde mondialisé, c'est vrai que c'est difficile à dire comment ça changera en Suisse, mais probablement que nous sommes arrivés à une forme de, enfin certains le disent, hein, si l'on continue comme ça, on est dans le mur. Donc il y a à réinventer la manière dont on organise le travail, il y a à repenser pour soi aussi son investissement et la place qu'il tient dans la vie. Je pense qu'on ira vers des choses effectivement beaucoup plus flexibles, mais pas forcément dans le sens de précaire, mais flexibles dans le sens de individualiser.
Plus un travail pour une vie, ça on l'a dit, on va changer, on va être plus créatif.
Et de ce point de vue-là aussi, on va changer probablement 2-3 fois de métier, peut-être, dans sa vie.
Merci en tout cas beaucoup, Annie Vallon, d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail et des organisations. Vous êtes secrétaire générale de Psy4Work. En régie avec nous toute cette semaine, John Hasselbacher et Luana Biadici. Et puis, puisqu'on est vendredi, eh bien, c'est l'heure de remercier ceux sans qui cette émission ne serait pas possible, en particulier Céline Zuffray, notre assistante de production. Et puis, à la programmation musicale, c'était Stéphanie Jovanovic. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver à cette place Julien Magnolet. Et puis, on évoquait la manière de mieux vivre son travail. Eh bien, puisqu'il est vendredi, qu'il est bientôt 11h30 sur la première, ben pourquoi pas, en écoutant les décodeurs, aller prendre l'apéro avec ses collègues. Finalement, ça peut être un bon moyen de retrouver le goût du travail. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite.